21h passées de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous et merci de monter à bord de Wagon Livre, notre rendez-vous hebdomadaire. Un rendez-vous hebdomadaire autour de l'histoire du communisme pour les nuls. Bonsoir Bernard Lecomte.
Bonsoir Yannick.
Alors Bernard Lecomte, c'est votre dernier ouvrage dans cette collection bien connue pour les nuls aux éditions First. Une bonne idée cadeau pour les collégiens, mais pourquoi pas aussi pour les adultes à la mémoire oublieuse.
Oui, vous avez raison de parler de mémoire oublieuse. Si vous voulez, ce livre-là n'est pas tout à fait dans la ligne de ceux que je fais d'habitude, qui sont plus de la recherche et du récit. Là, c'est presque de la pédagogie, en effet. On est assez nombreux à avoir remarqué ces derniers mois, ces dernières années, qu'une génération arrive porteuse de la République de demain, de notre démocratie, une génération jeune qui a beaucoup de qualités mais qui a un défaut en général, c'est qu'elle est nulle en histoire. Et nous sommes nombreux à nous dire mais comment cette génération-là va-t-elle en effet faire fructifier les acquis de la République, cette chance extraordinaire que nous avons d'être un peuple démocratique où la liberté prime, si les électeurs de demain sont aussi nuls en histoire, si aucun jeune d'aujourd'hui ne sait, ou presque, qui est Trotsky, qui était Cachin, qui était Torres, qui était Zinoviev ou Staline.
Ou Jacques Duclos.
Ou Jacques Duclos, bien évidemment. C'est un peu en pensant à toute cette génération sans mémoire que j'ai accepté la proposition des éditions First de faire cette histoire du communisme pour les nuls.
Alors c'est original tout de même quand on a été biographe de Jean-Paul II de se plonger dans l'histoire du communisme.
Alors c'est vrai bien sûr et je vois votre sourire, mais rappelez-vous quand même que j'ai été pendant une vingtaine d'années l'envoyé spécial permanent de l'Express à Moscou et que j'ai été chargé pendant des années de traiter les affaires du communisme et de traiter quotidiennement toute cette longue, ce long processus d'effondrement du communisme il y a quelques années. Et donc, disons que le Kremlin est un peu ma deuxième patrie aussi, sur le plan au moins journalistique.
Bernard Lecomte, a-t-on suffisamment commémoré ou réfléchi au centenaire de la Révolution d'octobre? Parce qu'il y a... il y a un siècle maintenant, les Soviets prenaient le pouvoir à Petrograd.
La réponse est certainement non, mais il y a une explication à ça. Aujourd'hui, en Russie, il y a un monsieur qui s'appelle Poutine, qui est le président de la Russie post-soviétique, qui entend bien d'ailleurs le rester encore un certain temps, si on est bien informé. Et Vladimir Poutine n'a aucune envie de rappeler ces heures sombres, compliquées, tordues, désordonnées, révolutionnaires que furent les journées d'octobre 1917. Et dès lors qu'en Russie, on n'a pas vu un défilé, pas une commémoration, pas un rassemblement, où on aurait pu avoir au moins des photos ou une vidéo de Poutine prononçant un discours sur la révolution d'octobre, on n'a rien eu, rien du tout. Et évidemment que les médias français ne sont pas plus royalistes que le roi. À partir du moment où vous n'avez aucune image qui vienne de Moscou, bien sûr, l'information sur ce centenaire perd beaucoup de son intérêt journalistique. Alors, je le regrette naturellement parce que je pense que c'était une bonne occasion, au contraire, de faire un petit rappel historique de ce que fut ce siècle, siècle de sang et de feu, siècle d'idéologie et de folie. Mais voilà, ça n'a pas été fait, c'est comme ça, il reste heureusement quelques livres à lire.
Y a-t-il encore des nostalgiques du régime soviétique dans l'ex-URSS ?
Oui, il y en a.
Est-ce qu'il y a encore un parti communiste en Russie ?
Alors, absolument. Il y a un parti communiste qui est l'héritier du parti qui était le parti unique de l'époque Khrouchtchev, Brejnev, Gorbatchev. C'est un parti qui rassemble en effet, le mot est juste, des nostalgiques d'une époque où, après tout, il y avait de la poigne dans le pouvoir, il y avait un État fort et un pays respecté. Alors évidemment, tout ça s'est effondré lorsque Gorbatchev, dans les années 80, à la fin des années 80, a essayé de libéraliser un peu tout ça, d'en faire quelque chose d'un petit peu plus moderne. Tout ça s'est effondré. Cette grande puissance n'est plus aujourd'hui qu'un pays convalescent. Et il reste en effet deux types de nostalgie. Les nostalgiques du communisme, donc ce parti dont vous parlez, qui est un parti tout à fait minoritaire, mais qui existe. Et puis une autre forme de nostalgie, celle de Vladimir Poutine, la nostalgie de la grande puissance qui se faisait respecter et qui parlait d'égal à égal avec les États-Unis.
Alors évidemment... Cette histoire du communisme est immensément riche. C'était passionnant d'ailleurs pour moi de redécouvrir un petit peu, je me rappelais, adolescent, de l'actualité, les sandinistes, le sentier lumineux, toutes ces expériences communistes révolutionnaires plutôt violentes en Amérique du Sud. Mais enfin, c'est le cas où un peu partout, malheureusement, il y a toujours eu un peu de violence autour du communisme, Bernard. Et on avait reçu il y a, je crois l'an dernier, ou il y a plusieurs années, Thierry Volton, l'auteur d'une histoire mondiale du communisme, qui là montre des pages remplies de victimes, de cadavres et de sang. Alors qu'au départ, c'est un formidable espoir.
Cet espoir, il faut effectivement commencer par là, parce que sinon on ne comprend pas la suite de l'histoire. Cet espoir, il est aussi vieux que l'homme. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des esprits désireux de plus de justice. Alors, on parle aujourd'hui de justice sociale, mais la justice, rappelez-vous Platon, rappelez-vous l'Évangile, là c'est la justice plutôt entre les pauvres et les riches, mais après tout c'est un peu la même chose. Le communisme va récupérer ce besoin fondamental en l'homme de se battre pour plus de justice, plus d'égalité entre les hommes. Il y a, si vous voulez, deux points de départ au communisme en tant que tel. Il y a d'abord la Révolution française qui va être la référence de tous les communistes du monde pendant un siècle. Parce que c'est une grande rupture historique, parce qu'en effet, il y a toujours eu dans cette Révolution française le prétexte de l'égalité entre les hommes, alors plus ou moins bien conduit, mais prétexte quand même à l'égalité, qui en soi, bien sûr, est une bonne chose. Et puis, il y a eu cette idée que la Révolution dévore souvent ses enfants. Robespierre a toujours été un modèle pour tous les communistes de la Terre. La Convention, un certain nombre de révolutionnaires aussi durs, je pense par exemple à Gracchus Babeuf. Vous savez, c'est le premier, c'était un bourgeois picard, Babeuf, c'était pas un intellectuel, mais c'est le premier qui a inventé le mot communisme. C'est le premier, dans les années donc 1793, 94-95, à manier ce mot communisme. Et c'est le premier sans doute, et ça va avoir de l'importance, à se dire, au fond, pour instaurer une plus grande justice, il faut que les pauvres délèguent leur pouvoir, leur force dans des révolutionnaires professionnels qui vont, en leur nom, instaurer un régime nouveau et trouver les moyens d'instaurer un homme nouveau. C'est Babeuf qui a inventé ça, c'est un Français, un Picard, un peu oublié aujourd'hui, mais qui va évidemment être cité par la suite. Alors la suite, c'est le deuxième point de départ, c'est la Révolution industrielle. Disons pour simplifier, 50 ans après la Révolution française, apparaissent notamment en Angleterre les usines, les grandes usines, les trusts, tout ce qui va devenir l'industrie moderne. Et cette industrie, ces usines vont déclencher un phénomène jusqu'alors complètement inconnu, ou en tout cas marginal, qui est l'exploitation de centaines et de milliers, de dizaines de milliers de gens venus de la campagne, venus s'embaucher là, dans ces usines nouvelles, et exploiter, comme on se rappelle, quand on connaît un peu la littérature française ou la littérature anglaise, c'était une horreur que cette espèce de régime qui s'était instauré où les gamins, les enfants travaillaient, où les femmes travaillaient, y compris quand elles étaient enceintes, où les hommes travaillaient, y compris le dimanche. C'était évidemment une nouvelle civilisation qui balbutiait, et qui balbutiait dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans le sens de ce qu'on a appelé l'exploitation de l'homme par l'homme. L'expression, d'ailleurs, n'est pas du tout d'un communiste, elle est d'un chrétien, elle est de Frédéric Ozanam. Mais tout le monde était très inquiet à cette époque-là. Enfin, je dis tout le monde, bien sûr, ceux qui avaient un petit peu de cœur et qui réfléchissaient à l'avenir, étaient très inquiets de ce qu'allait devenir ce qui apparaissait comme la classe ouvrière. Ça, c'était complètement nouveau. Et bien évidemment, c'est à partir de l'apparition de cette classe ouvrière que des penseurs, des théoriciens, des philosophes comme Karl Marx, comme Friedrich Engels et par la suite comme Lénine et d'autres vont considérer comme une classe luttant contre une autre classe. Et là, on est au cœur de ce que va être le communisme. Le communisme, c'est quand même d'abord la lutte des classes qui va opposer la classe ouvrière à la classe bourgeoise.
Bernard Lecomte est à bord de Wagon Livre sur Radion pour l'histoire du communisme pour les nuls aux éditions First. On marque un premier temps de pause musicale et puis on se retrouve juste après avec notre invité.
Toutes les larmes de ton corps et
votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Avec les nuls, tout devient facile. C'est le slogan de cette collection aux éditions First. Ce soir, l'histoire du communisme pour les nuls avec Bernard Lecomte. Alors, avant la pause musicale, Bernard Lecomte, vous nous rappeliez cette notion fondamentale de lutte des classes. Il y a un homme sur lequel vous revenez, il est incontournable, c'est Karl Marx, philosophe allemand, qui, avec Engels, vont poser les bases qui vont servir ensuite au développement de l'idée du communisme.
Oui, c'est fondamental parce que, bien sûr, une simple idéologie ou une simple doctrine politique n'aurait pas pu avoir le destin qu'a eu le communisme pendant presque un siècle. Karl Marx a une importance colossale parce que cet homme, allemand, juif christianisé, qui voulait être avocat puis poète, qui est devenu au fond une espèce de penseur. Karl Marx n'a jamais travaillé de sa vie, ce qui est toujours amusant de rappeler, évidemment. Karl Marx avait une vie tout à fait bourgeoise. Je rappelle d'ailleurs, parce que dans un livre pour les nuls, il faut toujours avoir quelques anecdotes un petit peu rigolotes entre les choses sérieuses. Et je rappelle par exemple que Karl Marx a engrossé sa bonne et qu'il a fait passer cette naissance sur le dos de son ami Engels, qui était lui un coureur de jupons, parce que Karl Marx ne voulait surtout pas briser son ménage avec une affaire pareille. Vous voyez qu'on trouve toujours des choses amusantes, même dans ces histoires-là. Karl Marx donc était un jeune bourgeois, un jeune révolté, certes, mais surtout un philosophe. Et c'est fondamental. Ça n'est pas un économiste, ça n'est pas un politique, c'est un philosophe. Et le début de l'importance de Karl Marx tient d'abord dans ce qu'on a appelé le matérialisme historique. Alors, il ne faut pas faire peur à nos auditeurs, on ne va pas se lancer dans la philosophie, mais il faut comprendre que le communisme repose sur des bases philosophiques. Karl Marx avait le sentiment qu'il avait trouvé le sens de l'histoire et que si on réfléchissait bien au sens de l'histoire, on voyait bien que la révolution prolétarienne était inéluctable. Tôt ou tard, il allait se passer une révolution qui allait porter les prolétaires au pouvoir. C'était la théorie historique et philosophique de Marx. C'est après que tout ça est venu nourrir la réflexion de clubs ouvriers ou syndicaux ou syndicalistes ou anarchistes qui vont fonder à la fin du 19e siècle ce qu'on va appeler globalement le socialisme. À l'intérieur de toutes ces thèses socialistes, il y en a qui sont tout à fait réformistes, d'autres qui sont carrément violentes, d'autres qui sont anarchistes. Et puis, il va y avoir cette aile extrême du socialisme, incarnée par des gens qui vont s'appeler les bolcheviques et qui, au début du XXe siècle, vont lancer ce qui va devenir le communisme.
Alors rappelons 1848, donc le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, et puis en 1867, Le Capital, sous-titré Critique de l'économie politique. Alors, bien sûr, en 1917, il y a cette révolution d'octobre qui est un événement mondial, Bernard Lecomte. C'est indéniable. Ce qui s'est passé, le renversement du tsar et l'arrivée au pouvoir d'un régime qui n'avait jamais tenté d'ailleurs de mettre en place ses principes dans quelques pays que ce fût.
C'est un événement mondial au moins pour deux raisons. Et la première est un peu inattendue. Quand on se replonge dans la presse de l'époque, par exemple, la presse britannique, la presse française, la presse européenne en général, on est frappé de ce que la révolution bolchevique n'intéresse tous ces pays-là, tous ces observateurs-là, que pour une raison. C'est qu'elle va dégarnir le front de l'Est, le front de ces armées qui luttent à ce moment-là contre Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, et le Reich. Pour les Français, par exemple, toute cette affaire russe, elle est d'abord liée au fait que les Russes sont les alliés des Français contre les Allemands. N'oublions jamais que la révolution de 17, comme le chiffre l'indique, elle se passe entre 14 et 18. Elle est en pleine guerre 14-18. Et qu'on ne comprend rien à cette affaire si on n'a pas dans l'idée que les armées allemandes progressent contre les armées russes, là-bas, à l'est, du côté de Petrograd, du côté des autres villes russes. Et c'est parce que cette progression militaire est en train de déstabiliser le pouvoir qu'elle a en effet déstabilisé les armées du tsar, que le tsar finit par abdiquer, que l'anarchie commence à s'installer. C'est à cause de tout ça que cette poignée de types qui s'appelaient les bolcheviques, avec à leur tête Lénine, puis Trotsky, cette poignée de types va se mettre en cheville avec les déserteurs de l'époque, il y en avait beaucoup, les soldats des garnisons, et va prendre le pouvoir, mais ce pouvoir était à ramasser. Donc, premier étonnement, première réaction internationale, qu'est-ce qui va se passer après ? parce que d'un seul coup, on voit bien que les Allemands vont pouvoir revenir et entamer peut-être une nouvelle guerre contre l'Europe de l'Ouest. Deuxième réaction internationale, deuxième étonnement, cette révolution se passe dans un pays où elle n'aurait jamais dû se passer. Car nous parlions tout à l'heure de Karl Marx, de Friedrich Engels, de Lénine, de Trotsky, de tous ces gens qui ont réfléchi à la révolution, qui ont écrit des livres là-dessus. Tous pensaient que la révolution serait mondiale et qu'elle commencerait, bien sûr, dans un pays industriel. Soit l'Allemagne, soit l'Angleterre, soit la France. Tous ces gens-là ont été très marqués par la Commune de Paris, par exemple, en 1871. Et donc, cette idée que ça allait se passer dans un pays industriel, elle est très logique. Puisque, rappelez-vous, la lutte des classes, c'est d'abord la classe ouvrière contre les bourgeois. Eh bien, pour qu'il y ait des ouvriers et des bourgeois, il faut bien qu'il y ait un pays industriellement développé. Or, ça n'est pas du tout le cas de la Russie. La Russie, à l'époque, c'est un immense territoire dirigé par un empire tsariste depuis 3 siècles et surtout peuplé de 160 millions de paysans et de paysans pauvres. Il n'y a quasiment pas d'ouvriers en Russie à ce moment-là. Il y en a dans quelques grandes villes et il y en a en effet particulièrement à Petrograd qui est la capitale du pays et qui en effet a des usines militaires notamment. Je vous rappelle que nous sommes en guerre et ces usines militaires, je pense aux usines Poutilov, vont avoir un rôle important dans la révolution. Mais encore une fois, ce pays où il n'y a quasiment pas d'ouvriers et pratiquement pas de bourgeoisie va être curieusement le pays où la révolution communiste va éclater et réussir.
Alors entre en scène Lénine, d'abord Lénine auquel Staline succède. Alors Lénine, c'est tout de même un homme génial. On peut quand même dire qu'il est génial.
Avec le recul,
parce que tout est à construire dans ce pays en 17.
Avec le recul, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Marx est un type extrêmement intelligent, Engels un type brillantissime, Trotsky est un type remarquable, Lénine est un type très intelligent. Ces leaders-là, ces dirigeants qui vont devenir les phares de la révolution, comme on dira plus tard, ce sont en effet des hommes intelligents. Lénine a une particularité. Lénine est un extrémiste, disons, on dirait aujourd'hui un jusqu'au boutiste. Il est toujours à la gauche de quelqu'un. Dès qu'il y a une proposition pour ceci ou pour ça, Lénine est toujours contre la proposition parce qu'il veut plus. Et quand il arrive, il revient en Russie au moment de l'abdication du tsar, et il se rend bien compte que le gouvernement provisoire à ce moment-là, qui est un gouvernement de transition, qui se dit socialiste et révolutionnaire, mais ne l'est pas vraiment. Et Lénine et ses amis les bolcheviks vont dire, mais non, tous ces gens-là ne rêvent que du retour de la bourgeoisie, tout ça ce sont des mots naturellement, et Lénine va dire, nous voulons donner la terre aux paysans, nous voulons arrêter la guerre, nous voulons tout le pouvoir pour les soviets. Les soviets, c'était quoi? C'était des conseils, les conseils des assemblées de quartiers et de villes qui s'étaient constitués pendant cette période d'anarchie. Il y avait une tradition, il y avait déjà eu des soviets en Russie quelques années plus tôt. Et ce sont des assemblées complètement brouillonnes, faites de soldats, d'ouvriers, de déserteurs, de paysans et de quelques intellos, dont Lénine, Trotsky et ses petits camarades. Et Lénine va comprendre qu'on ne sort d'une situation comme ça qu'en ramassant le pouvoir quand il est à ramasser. Et c'est ce qui se passe. En octobre 1917, le pouvoir est à ramasser. Le fameux gouvernement provisoire, celui qui a succédé tant bien que mal au tsar Nicolas II après l'abdication, ce fameux gouvernement est incapable de régler le problème numéro un qui se pose, c'est-à-dire le problème de la guerre. Là encore, pardon d'y revenir, mais c'est fondamental. La guerre est aux portes, les Allemands avancent. Les Allemands peut-être vont prendre Petrograd. Ils vont peut-être envahir toute la Russie. Et ce gouvernement n'arrive pas à gérer le problème de la guerre. Lénine, lui, annonce à grands cris qu'il va arrêter la guerre, quoi qu'il arrive et sans condition. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent, allons-y, c'est la seule solution. Sauf que on imagine déjà ce qui va se passer après. Une fois que Lénine a pris le pouvoir, se pose toujours le problème des armées allemandes qui avancent. Et Lénine dit, non, nous on en arrête la guerre. Sauf que les Allemands, eux, ils n'ont pas du tout envie de l'arrêter. Et il va falloir, là, pendant 3 mois, toute l'intelligence de Trotsky pour se sortir de cette épouvantable situation. Oui, on arrête la guerre, très bien, mais on fait quoi? On fait comment? Et on sait bien que en mars 1918, donc 3 mois après la Révolution, 4 mois après la Révolution, Trotsky signe avec l'Allemagne un traité dit de Brest-Litovsk, parce que c'est là, Brest-Litovsk est un petit peu à la frontière entre l'Allemagne et la Russie impériale en tout cas, et Brest-Litovsk est une espèce de recul formidable. Trotsky signe, la Russie, il faut se rappeler ça, la Russie perd le tiers de sa superficie. En tout cas, le tiers de sa population. La superficie, non, parce que la superficie, ça va jusqu'au Japon, la Russie. Mais il n'y a personne là-bas. C'est la toundra et la Sibérie. En revanche, le tiers de sa population, ce qui est évidemment énorme, la Biélorussie, l'Ukraine, la Pologne à l'époque, tous ces pays-là passent sous la botte allemande. Alors, rappelons-nous tout simplement que les Allemands, heureusement pour tout le monde, vont perdre la guerre au mois de novembre. Et donc, tout ça va se remettre un peu en place. Mais enfin, comprenons bien que les bolcheviks, quand ils prennent le pouvoir, commencent d'abord par sacrifier le tiers de leur pays pour la révolution future.
L'histoire du communisme pour les nuls aux éditions First de notre invité Bernard Lecomte. Bernard, si vous en êtes d'accord, on marque un nouvel intermède musical et puis on reprend notre échange juste après. Bonne soirée à toutes et à tous, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion.
Innocente in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità, felicità,
felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che va, è la pioggia che scende dietro alle tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità,
felicità. E un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Il fut l'ancien envoyé spécial permanent du magazine L'Express à Moscou. Bernard Lecomte, journaliste, écrivain, et ce soir devant le micro de Wagon Livre pour l'histoire du communisme pour les nuls, de Marx à Mélenchon. Hein.
Oui, c'est un peu la formule amusante qu'a trouvée mon éditeur. On reviendra peut-être sur Mélenchon tout à l'heure. Mais il est vrai que de Marx à Mélenchon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une histoire colossale qui a duré un siècle et plus et qui a beaucoup concerné la France. On y reviendra aussi sûrement dans un instant.
Alors bien sûr, on a parlé avant la pause musicale de Lénine. Lénine meurt en 1924. On sait très bien qu'il aurait sans doute préféré que Trotsky, qui est le créateur d'ailleurs de l'Armée rouge et qui était un peu l'homme de confiance de Lénine. Lénine avait, je crois, beaucoup d'admiration pour Trotsky et c'était réciproque. Celui qui va, disons, un peu par ruse en éliminant un peu tout le monde, c'est celui qui va se faire appeler le petit père des peuples, c'est Staline qui prend le pouvoir de 1924 jusqu'à sa mort en mars 1953.
Absolument, ce duel de succession entre Trotsky et Staline, évidemment, est le duel de deux hommes. Il y en a un qui est un révolutionnaire, un intello, qui a réussi à gagner la guerre civile, qui est un type assez étonnant. Et puis il y a Staline, le géorgien, qui est plutôt un apparatchik, méthodique, rusé, secret.
Sans scrupules.
Sans scrupule aucun et cruel, ça l'avenir va nous le montrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces deux hommes, il y a un grand enjeu qui s'est joué. Trotsky était l'héritier, avec Lénine, Marx et les autres, de cette idée que la révolution allait démarrer dans un pays. Bon, elle a démarré en Russie, très bien, mais elle était destinée à s'étendre sur la planète entière. La révolution était mondiale. Trotsky parlait de révolution permanente. Alors que Staline, lui, c'est un apparatchik qui va d'abord construire le régime socialiste soviétique. C'est Staline qui construit l'URSS comme un État et non plus comme des choses un petit peu fumeuses qui vont gagner la planète entière. Et donc, Staline va construire cet État qui va être la patrie du communisme, qui va être le phare, le berceau du communisme et de l'international communisme et qui va rester évidemment le modèle communiste pendant des années et des années. Mais deux révolutions mondiales, point. C'est l'URSS qui était là à se construire sa force militaire, sa force politique, son appareil administratif et économique. Il va falloir attendre le lendemain de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui va évidemment être un tournant colossal pour tout le monde, mais ce lendemain de la guerre qui va provoquer l'extension du communisme un petit peu, justement, comme l'avait rêvé naguère Karl Marx ou Vladimir Trotsky, ou Vladimir Lénine. Déjà, à partir de l'effondrement du Japon en 1945, on voit apparaître le communisme asiatique. On voit la Chine, le Cambodge, le Laos, donc l'ancienne Indochine, évidemment, avec le Vietnam.
Les colonies françaises.
Les colonies françaises, la Corée, tous ces pays-là devenir communistes. Alors, soyons clairs, ce communisme-là, c'est d'abord du nationalisme. D'abord. Certes, on se réfère, comme dans une religion, à des pères de l'Église et à des textes sacrés. Sauf que, il suffit de voir un petit peu comment le communisme asiatique avance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette Corée du Nord qui nous fait si peur aujourd'hui, qui est le dernier vrai bastion du communisme pur et dur. Quoique la Chine, là aussi, reste un sacré bastion. Hein. L'autre jour, on a tous été un peu stupéfaits de voir M. Xi déclarer que son pays était bel et bien un pays communiste, dirigé par un parti communiste. Donc, en Asie, ça n'est pas tout à fait fini. Mais c'est d'abord du nationalisme. Dans le reste du tiers-monde, prenez l'Afrique par exemple, où il va y avoir en effet un certain nombre de tentatives. Angola, Congo, Éthiopie, Somalie, Mozambique. Là, on est plutôt dans un communisme, disons, anticolonialiste. C'est d'abord cette idée de se libérer des colonies que les conseillers soviétiques vont pousser jusqu'au bout pour créer des partis communistes en Afrique. Quant à l'Amérique latine, ne l'oublions pas, il y a eu en effet pas mal de mouvements, comme le Sentier lumineux au Pérou, ou de réussites comme Cuba, qui vont en effet construire un communisme particulier là encore, dont les figures seront Fidel Castro, Che Guevara, etc. Ce communisme-là, soyons clairs, c'est d'abord de l'anti-américanisme. Ces forces-là se retrouvent contre le pouvoir américain, l'impérialisme américain, les usines américaines, les colonels ou les juntes militaires à la solde des Américains. C'est quand même ça, le communisme latino-américain, pardon. Ce communisme-là, c'est d'abord de l'anti-américanisme. Et vous voyez donc que, selon la région du monde, ce communisme a eu des formes très particulières, quoique très fortes et souvent très violentes.
Alors bien sûr, il y a ce monde bipolaire, hein, qui, à partir de 47, enfin c'est Churchill qui parle du rideau de fer dans ce fameux discours de Fulton, où il dit effectivement que le monde est dominé d'un côté par les États-Unis, le monde occidental, et de l'autre par cette puissance soviétique.
Cette
qui
puissance...
a d'ailleurs en plus, pardonnez-moi Bernard, mais ça c'est un petit rappel, qui a délivré une partie de l'Europe de l'Est, certes du nazisme, mais qui en a fait des républiques populaires, qui elles aussi sont les petites sœurs politiques du grand frère soviétique.
Mais surtout Yannick, surtout qui a vaincu le nazisme. C'est fondamental. En 1945, Staline est incontestablement à la tête de la puissance qui lutte et qui renvoie les Allemands dans leur foyer. Et ce combat, attention, hein, 12 millions de soldats en 1945 qui se battent, 12 millions de soldats soviétiques. C'est énorme. Et ce pays qui a tellement perdu déjà, qui a gagné Stalingrad, qui avait déjà perdu beaucoup de millions de morts, ce pays devient le principal vainqueur du nazisme. Et ça va complètement changer son image. Parce que l'image avant, il faut se rappeler que c'est l'image des procès de Moscou, du Goulag, de la Sibérie, des dizaines et des dizaines de milliers et de centaines de milliers de morts assassinés par le KGB, assassinés dans les camps, etc.
Ou les grandes famines.
Ou les grandes famines, c'est une image épouvantable. Et en 1945, le fait que Staline soit le principal vainqueur d'Hitler, alors qu'il en avait été le complice pendant 2 ans, il ne faut pas non plus oublier cette petite chose-là en 1939-41. Eh bien, en 1945, tout change. Staline, c'est le vainqueur du nazisme et c'est donc quelqu'un de respectable. Et l'URSS est redevenu respectable et le communisme a pris les habits de l'antifascisme et de l'antinazisme permanent. On voit bien qu'en France, par exemple, les communistes, dans les années 50, se réclament d'abord et avant tout de la résistance. Ils ont oublié ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, tout le monde a oublié ce qui s'est passé avant. On est dans une nouvelle période de l'histoire. Cette période s'appelle la guerre froide parce que on voit bien que la lutte des classes, comme disait Marx, comme disait Lénine, la lutte des classes s'est incarnée dans la lutte entre la moitié du monde communiste qui est près des travailleurs et puis une autre moitié qui serait la moitié impérialiste autour des États-Unis et de l'Europe occidentale.
D'ailleurs, Bernard, le général de Gaulle, dès 1944, a bien compris qu'il fallait que la France libre qu'il représentait, peut-être aussi parce qu'il avait peur du pouvoir communiste à la libération, mais de Gaulle a rencontré Staline et lui a fait comprendre que la France libre, ben c'était lui.
En décembre 1944, en effet, le général de Gaulle, qui c'est juste après la libération de Paris, hein, et rappelons-nous, c'est un peu avant la conférence de Yalta. Donc vous voyez, c'est une période où la guerre n'est pas finie. De Gaulle s'installe à Paris, il est chef du gouvernement provisoire de la République et il sait que s'il veut que la France figure parmi les vainqueurs de la guerre, il lui faut à tout prix l'appui de Staline. C'est très important ce voyage du général de Gaulle au Kremlin parce que à une époque où on se demande aujourd'hui s'il faut parler avec Poutine ou pas, de Gaulle nous donne une sacrée leçon de stratégie et de diplomatie. Bien sûr qu'il faut parler, y compris avec le diable, si c'est pour les intérêts de la France. Et de Gaulle va arracher à Staline, en effet, cet accord. Il va revenir avec un traité d'alliance qui va en effet permettre à la France d'être un des pays vainqueurs de la guerre.
Alors je reviens un tout petit peu sur l'Asie. Donc 1949, la Chine populaire donc est cette fois-ci vraiment communiste, la personnalité de Mao Tse-tung. On a toujours des hommes très forts au pouvoir qui effectivement basculent toujours du côté de la répression, de la dictature, du prolétariat.
Il n'y a pas d'exemple d'un pays qui devienne communiste sans que cette arrivée au pouvoir des disciples de Lénine et de Trotsky n'aboutisse à des massacres. Il n'y a pas d'exemple. À chaque fois, le communisme, quand il s'installe, ouvre des prisons, exécute des ennemis de classe. Alors c'est toujours, bien sûr, sous prétexte de lutter contre la bourgeoisie et d'empêcher la contre-révolution de reprendre le pouvoir. Sauf que, à chaque fois, ce sont des massacres, c'est une dictature qui s'installe, vous savez, la fameuse dictature du prolétariat, c'était dans les thèses de Marx et de Lénine. Eh bien, cette dictature du prolétariat, c'est une vraie dictature. Et à chaque fois qu'un pays devient communiste, eh bien, les religions sont interdites, la presse est interdite, la presse non bolchevique, non communiste, évidemment. Donc, les libertés sont assassinées, y compris leurs porte-parole, souvent les écrivains, les artistes qui se retrouvent dans des camps ou dans des prisons. Ça, c'est toujours passé comme ça. Alors, heureusement, si j'ose dire, il y a des pays où les communistes ne sont pas arrivés au pouvoir. C'est important pour nous, par exemple, nous les Français, parce que le fait que les communistes ne sont jamais arrivés au pouvoir en France, ils ont été à deux doigts, hein, en 1946, ça s'est vraiment passé très très près. Mais ça ne s'est jamais fait. Et du coup, on peut dire que les communistes français n'ont pas eu, eux, je dis bien eux, de sang sur les mains. Et c'est fondamental aussi pour notre rapport avec le communisme. Parce qu'au fond, le souvenir du communisme en France, c'est des souvenirs politiques, c'est des engagements nombreux. À un moment, le Parti communiste était le premier parti de France. Hein, il ne faut pas oublier ça. Il était passé à plus de 30% des voix aux élections après la guerre. Et ce parti, qui a une histoire compliquée, beaucoup de moments de servitude par rapport à Moscou. Il faut bien dire que le Parti communiste français a toujours obéi assez aveuglément à Staline et au Comintern. Mais ce communisme-là n'a jamais été cause de massacres. Il n'y a jamais eu de camp communiste, il n'y a jamais eu de goulag en France. Et évidemment, ça permet à la mémoire française d'avoir du communisme une image peut-être un petit peu moins terrible que pour la plupart des autres pays.
On marque une nouvelle pause musicale, puis on reviendra justement sur cette exception française, le communisme à la française, juste après le petit intermède. C'est Bernard Lecomte qui nous accompagne ce soir dans Wagon Livre sur Radio pour l'histoire du communisme pour les nuls. Alors c'est vraiment passionnant, totalement didactique, ça c'est le principe de la collection. Et en plus, il y a des sélections de textes indispensables, incontournables. Il y a aussi des sélections de personnalités, des femmes. Bon, on a Louise Michel, Dolores Ibarruri, etc. La Passionaria, qui a été, je crois, la seule femme à la tête d'un parti communiste en Europe.
Oui, et quelle femme ! Alors celle-là, si elle n'était pas extrémiste, alors je ne sais pas ce que veut dire le mot extrémiste. Enfin, il y avait peut-être aussi notre Jeannette Van Mersch, la femme de Maurice Thorez, parce que elle aussi, c'était une stalinienne, elle l'est restée d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. Et ces femmes-là étaient quand même assez extraordinaires dans leur obsession, dans leur extrémisme, dans leur radicalisme un peu fou. Et alors là aussi, sans aucune espèce de pacifisme, etc. Quand il fallait exécuter quelqu'un, on l'exécutait. Ces femmes-là, ça ne leur faisait pas froid aux yeux.
En tout cas, on revient sur le communisme en France du congrès de Tours en 1920 jusqu'à Mélenchon. On essaiera de faire un petit panorama historique avec Bernard Lecomte. On se retrouve dans une poignée de minutes.
J'ai l'ordre des choses.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
L'histoire du communisme pour les nuls, c'est le titre du dernier ouvrage de Bernard Lecomte, ouvrage paru au mois d'octobre dernier, qu'on trouve en librairie et qu'on peut glisser sous le sapin. C'est un beau cadeau.
Il faut le glisser sous le sapin à l'attention des jeunes. Alors, pas des tout petits, bien sûr, mais des étudiants notamment. Moi, j'aimerais que ce livre-là fasse partie presque comme un manuel scolaire, si vous voulez, de la base historique qu'il faut connaître quand on est étudiant, quand on se passionne pour son pays, quand on a un peu d'ambition. Il faut qu'on sache, en effet, qui étaient ces gens-là, Lénine, Staline, Trotsky, Cachin, Torres, Marchais? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce dans ce siècle un peu fou, ne serait-ce que pour avoir une vue un petit peu sage sur l'avenir de la République?
Alors en fait, Bernard, il y avait des socialistes en France et en 1920, il y a le fameux congrès de Tours. Et en fait, la gauche socialiste, une partie de la gauche socialiste choisit de s'aligner sur le modèle soviétique nouveau, en fait.
C'est exactement ça. Il faut dire qu'on est en 1920, donc juste après la guerre 14-18. Pardon de revenir à ça, mais c'est encore une fois fondamental. La guerre 14-18 avait été une horreur absolue, avait traumatisé des millions et des millions de gens. Et ces populations qui avaient souffert terriblement de la guerre, je pense évidemment notamment aux Français, ces populations-là, évidemment, étaient prêtes à accueillir des bonnes nouvelles venues d'ailleurs. Et quand on leur dit, mais vous savez, en Russie, une aube vient de se lever à l'Est qui prône la justice sociale, qui va faire un État sans classe, qui va assurer l'égalité des hommes. Beaucoup de gens étaient prêts à entendre ça. Parce que tout simplement, la guerre 14-18 avait été la faillite des régimes classiques européens, de nos démocraties, de nos républiques, de nos monarchies. Tout ça s'était effondré dans un désespoir absolu. Et cette grande lueur qui se levait à l'Est, comme on l'a appelé, a frappé évidemment pas mal de Français, pas mal de Belges, des Anglais, des Italiens, des Allemands bien sûr. Mais chez nous aussi, des gens se sont dit, après tout, est-ce que c'est pas ça qu'il faut espérer? Un régime pur et dur, carrément, qui fasse l'égalité entre les gens et qui nous fasse repartir sur de nouvelles bases. Donc en 1920, cette petite partie des socialistes a réussi à faire passer l'idée qu'il fallait adhérer à l'international communiste. Alors, qu'est-ce que c'était l'international communiste? C'était tout simplement une excroissance du parti communiste bolchevique. C'était Staline, Zinoviev et ses petits camarades. Et, enfin, à l'époque, c'était encore Lénine, naturellement, mais ça sera bientôt Staline et Zinoviev. Et au congrès de Tours, le jour de Noël 1920, il y a un vote qui brise en deux le Parti Socialiste, la SFIO, c'était déjà la SFIO. D'un côté, vous avez Marcel Cachin, Boris Souvarine et quelques autres qui sont pour l'obéissance à Moscou, au fond, parce que c'est quand même ça la clé. Hein, Moscou disait, vous pouvez adhérer à l'international si vous obéissez à Moscou. Et puis, les vieux de la vieille du socialisme français, dont Jean Jaurès, dont Léon Blum, dont ces grandes figures du socialisme, qui ont dit, non, il n'est pas question que nous, socialistes français, on obéisse à Moscou. Et cette faille, cette rupture extrêmement forte, Guy Mollet, là aussi, c'est des jeunes types qui vont avoir ensuite une importance colossale dans l'avenir. Tous ces gens-là vont dire non. Pas question d'obéir à Moscou, c'est trop aléatoire. Et puis, petit à petit, ils vont comprendre qu'il y a le goulag, que c'est trop violent et que ça ne va pas. Donc, il va y avoir deux partis concurrents, rivaux et parfois ennemis qui vont être le Parti Socialiste, la SFIO, et le Parti Communiste Français.
Alors, si le Parti Communiste Français a aussi acquis une solidité dans le pays, c'est qu'il a été rejoint et soutenu par des intellectuels. Car ils ont été nombreux, les intellectuels français, à adhérer au Parti communiste, plus oui, dans les années peut-être d'après-guerre qu'avant. Mais...
Non, il y en a eu beaucoup dans l'entre-deux-guerres. On a un peu oublié, mais Albert Camus a été communiste avant-guerre. Vous vous rendez compte, Albert Camus,
le Parti communiste algérien.
Vous vous rendez compte, qui va être une des figures emblématiques de l'opposition au communisme après. Bon, Picasso, Aragon, Éluard, tous ces grands noms de la littérature ou de la peinture française sont devenus communistes, sont parfois restés communistes, jusqu'à encore un nom très connu aussi, Jean-Paul Sartre, qui lui va être communiste très loin, puisqu'il adhère au parti Jean-Paul Sartre l'année de l'insurrection de Budapest, en 1956. Avant, il est sympathisant, il adhère cette année-là. Donc, ces grands intellectuels qui vont être suivis par, évidemment, des milliers et des milliers d'enseignants, de professeurs, de chercheurs, d'intellos, d'artistes, vont avoir une responsabilité, évidemment, tout à fait importante. Et aujourd'hui, on n'en parle pas sans un petit goût amer dans la bouche. Parce que quand vous relisez, vous savez, Aragon, grand poète, mais qui peut nier le talent d'Aragon ? Et ce grand poète français a fait un poème à la gloire de la GPU, c'est-à-dire du futur KGB, c'est-à-dire de la police politique qui était chargée quand même d'assassiner les types, de les exécuter, de les envoyer au goulag.
Et le poème est dans votre livre.
Hein. Et le poème est dans le livre parce qu'il est quand même absolument fascinant.
Oui, eh oui, Aragon, peut-être... Et je ne sais pas, il y a des gens qui ont regretté après... d'avoir été communiste.
Beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires passés par le communisme vont devenir non seulement des gens extérieurs à ça, mais même des adversaires intellectuels. Je pense à Leroy Ladurie, je pense à François Furet, je pense à des noms comme ça. Jean-François Kahn, il a fait que passer, hein, il était tout jeune. Mais Alain Besançon, qui a fait que passer aussi dans les années 51. Beaucoup de ces gens-là, Annick Riegel, vont être finalement les principaux pourfendeurs du communisme par la suite, avec quand même un avantage, c'est qu'eux, ils savent, hein, ils étaient dedans. Et donc ces gens-là, avec plus ou moins d'amertume, vont devenir les grands porte-parole de l'anticommunisme. Alors, anticommunisme, ça fait peur comme ça. En réalité, tout simplement de cette conviction que le communisme doit être combattu et à aucun moment toléré à la tête de la France.
Il faut rappeler qu'en 1936, au moment du Front populaire, les communistes ne participeront pas au gouvernement. Thorez reste à l'écart. Mais en revanche, c'est François Mitterrand qui fait rentrer des communistes au gouvernement dès 1981. Il y en a quatre. D'ailleurs, il y a Jacques Ralite qui est décédé il n'y a pas si longtemps que cela, qui était ministre de la Santé, je crois.
Le Front populaire, commençons par là, c'est une idée de Staline. Hein. On a un peu oublié ça aussi en France. Mais c'est quand même après, rappelons-nous l'époque, c'est après la prise du pouvoir d'Hitler en Allemagne, 1933. En 1934, Staline comprend qu'il ne peut pas continuer à taper sur les socialistes tout le temps, sauf à faire le jeu d'Hitler, naturellement. Et c'est en 1935 que Staline dit aux communistes français, à partir de maintenant, on change de stratégie et on va avoir une stratégie de, je cite, de front populaire. Et c'est justement parce que les communistes français s'adressent à ce moment-là aux socialistes en disant « bon, ben nous, voilà, on serait prêts peut-être à faire un front, etc. » que, en effet, Léon Blum et bien d'autres vont monter cette opération politique magnifique, d'ailleurs à l'époque, hein, qui consiste à se faire élire avec un programme extrêmement fort, c'est le programme du Front populaire. Vous avez raison, les communistes n'y participent pas. Hein, ça s'appelle le soutien sans participation. C'est pourtant les communistes qui vont mener la grande grève de 1936, les grands bastions ouvriers sont tous là, et là aussi, à un moment, c'est les communistes qui déclarent « il faut savoir arrêter une grève ». Donc vous voyez que dans tous ces combats, les communistes ne sont pas la cinquième roue du carrosse. Ils sont même en première ligne, et c'est souvent eux qui décident de l'ampleur du mouvement ou au contraire du repli du mouvement ouvrier.
Alors Bernard, il faut aussi savoir finir une émission. Malheureusement, le temps passe très très vite. Que reste-t-il très rapidement ? Que reste-t-il du communisme en 2017 ?
Alors je suis tenté de vous dire quasiment rien, ce qui n'est pas banal parce que pour une affaire aussi importante qui a duré un siècle et qui a concerné la Terre entière, c'est quand même étonnant. Mais à la vérité, il ne reste pas grand-chose du communisme. Alors soyons clairs, il y a la Chine qui a un parti communiste à la tête d'un grand pays, incontestablement. Enfin, la Chine, c'est d'abord quand même des gens qui font du business à travers le monde entier. Il y a encore quelques traces comme le Vietnam, le Laos, bon, la Corée du Nord, on en parlait tout à l'heure, mais à titre à la fois terrifiant et exotique, encore un peu Cuba, mais tout ça, c'est rien du tout par rapport à ce que ça a été. En France, pareil, ce parti qui a été le premier parti de France est devenu un tout petit parti de 1, et quelques pourcents aux élections présidentielles. À la limite, ça n'est pas lui qui est l'héritier du communisme aujourd'hui. On parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Soyons clairs, Mélenchon n'est pas communiste.
C'est le Front de Gauche.
C'est le Front de Gauche. Mais Mélenchon est, si vous voulez, l'héritier de cette culture ouvrière. La façon dont il vante la lutte des classes, c'est ça l'héritage du communisme. Il ne s'agit pas forcément d'avoir la carte du parti et de lire l'Humanité tous les matins. Il y a un héritage culturel qui est extrêmement fort, qui n'est pas que négatif, là encore. Voyez par exemple la fête de l'Humanité. Voilà quelque chose de sympathique en diable, où tous les chanteurs de Sardou à Hallyday sont prêts à aller.
Et vous, Bernard, vous êtes allé à la fête de l'Humanité ?
Je n'y suis pas allé parce que je n'étais pas là l'année dernière, mais je voulais y aller justement pour voir un petit peu où ça en était. Mais cela dit, moi je fais partie des gens qui considèrent la fête de l'Huma comme une manifestation culturelle tout à fait sympathique. Donc vous voyez, cet héritage est contrasté, il n'est pas que blanc ou que noir, et en même temps, il est plus grand chose.
Et ce serait drôle que l'an prochain, à la fête de l'Huma, vous ayez un petit stand pour y vendre l'histoire du communisme pour les nuls.
Eh bien, on verra. Vous savez, j'étais l'autre jour pas loin de vous. J'étais au salon de Migène, vous savez, en octobre.
Oui. C'était Cité Rouge dans Lyon. Hein,
Cité Rouge, voilà. Un nid. Les cheminots sont nés à la Roche-Migène dans l'histoire de France. Eh bien, les premiers acheteurs de mon livre étaient des communistes avec qui j'ai parlé, d'ailleurs. Bon, voilà. Il y a du noir, il y a du blanc. Il y a beaucoup de choses, mais quand même, ce qui est important, c'est qu'il y a une histoire extrêmement forte, extrêmement porteuse de valeurs, de crimes, d'horreurs, de choses plus ou moins positives qu'il faut avoir en tête. C'est l'histoire de France. Le communisme, c'est aussi une histoire française.
Le message est clair. Donc, camarades français, unissez-vous pour vous procurer l'histoire du communisme pour les nuls de Bernard Lecomte. C'est aux éditions First. Bonne soirée, Bernard, et merci de nous avoir consacré autant de temps à bord de Wagon Livre sur Radion.
Merci, Yannick.
Au revoir, Bernard. Au revoir à toutes et à tous. Et rendez-vous mercredi prochain, toujours sur Radion à partir de 21h.